almost breaks my heart to think of these 5 long years. Oh, Lordy, Lord, what am I gonna do? Treat a dog like some people are treating me. I wouldn't treat a dog like some people are treating me. They treat me like some animal that they can't even see. I don't know Alabama, 'cause Alabama's not my home. I don't know Alabama, 'cause Alabama's not my home. But ever since I've been here, I'm sorry for the day I was born. Well, now I'm singing this song 'cause I want everyone to know
in the following medley, we pay our respects to the golden rule. Them that's got the gold makes the rules. Be quick, my mind, to answer, and be merciful, my feet. Be 47 places every time my heart can beat. But the whip that drives me onward is my family must eat. Production rushes on.
Vous êtes toujours sur Radio Pleine Lune, 101,4 MHz. Alors nous allons présenter maintenant une série d'interviews, une série de discussions, une série de prises de position qui ont lieu dans le cadre d'une réunion le week-end dernier sur le thème de où en est le féminisme en Suisse, quel est le lien entre féminisme ici, les femmes en lutte des pays riches et les femmes des pays pauvres. Alors nous avons en ligne une des organisatrices de cette réunion qui va un petit peu faire le bilan de cette soirée, faire un compte-rendu de cette soirée, et ensuite nous allons présenter des interventions qui ont eu lieu, qui représentent deux types de courants de femmes que, en général, on n'entend pas souvent à Radio Pleine Lune. C'est pour ça qu'on les a choisies aujourd'hui. Alors, je vous passe en ligne. Attendez. Voilà. Tu m'entends?
Oui.
Voilà. Alors, tu es en ligne.
Bonjour. Alors, c'est Marie-Jo qui parle. Alors, je fais partie de l'association de solidarité avec les femmes en lutte à Genève, qui a rassemblé le week-end dernier une 60aine de femmes qui se sont retrouvées vendredi soir 27 et samedi 28 avril pour réfléchir à la portée des grands thèmes du féminisme développés dans la vague femme des années 70 en relation avec le tiers-monde aujourd'hui et les femmes, bien sûr, du tiers-monde aujourd'hui. Expliquer pourquoi nous avons organisé cette rencontre, parce qu'on aime bien l'image de la map-monde, parce que c'est... On se demande, en la regardant, est-ce que notre... En regardant la map-monde, on se demande est-ce que notre désir de voir grandir le pouvoir des femmes est seulement une affaire de femmes privilégiées des pays riches, ou bien est-ce que cette idée peut se développer aussi là où les moyens sont très limités, là où les femmes travaillent durement juste pour arriver à nourrir la famille, parce qu'en général, c'est elles qui sont le pilier économique et social dans les sociétés rurales. Et nous aimerions développer, nous, un féminisme qui est un sens aussi pour les femmes du tiers-monde. Alors, comment réaliser cela? On s'est dit, on va commencer par rassembler du monde autour de cette idée. Et la rencontre était divisée en trois parties. Il y a d'abord eu, vendredi soir, une série de contributions de femmes suisses qui présentaient les tendances du mouvement suisse ou les différentes prises de position qu'on peut faire à propos du mouvement des femmes en Suisse. Cela dans l'idée que cette présentation pourrait intéresser des femmes étrangères vivant à Genève en ce moment, ou des femmes qui, en tant que femmes du tiers-monde, participaient à la rencontre. Et puis, d'autre part, le lendemain matin, alors, nous avons centré les débats sur des contributions de femmes vivant directement des réalités culturelles différentes ou étant insérées dans des luttes en tant que femmes, mais des luttes qui ne concernent pas les thèmes féministes traditionnels des années 70. Alors pour aujourd'hui, nous allons surtout parler de la rencontre du vendredi soir, parce que nous nous réservons une fois de pouvoir reparler de tout ce qui a été dit le samedi, qui était aussi très intéressant.
Mais peut-être que tu peux juste nous dire les thèmes qui ont été abordés samedi.
Alors samedi, il y avait deux groupes de travail en même temps. Dans l'un des groupes de travail, on a reçu des femmes du tiers-monde ou qui avaient vécu des expériences dans le tiers-monde qui parlaient alors de réalité. Bon, comme il y avait Wedad Ziegler qui vient de sortir un livre sur les femmes égyptiennes. Elle est elle-même d'origine égyptienne et pendant 20 ans, elle n'avait pas remis les pieds dans son pays pratiquement. Elle est retournée dans son pays pour faire une enquête sur la condition des femmes. Et elle en a évidemment retiré beaucoup, en tout cas elle. Mais en même temps, elle a vécu elle considère que c'est un choc culturel parce qu'évidemment, elles avaient la langue en commun, elles avaient le sexe en commun. Pour discuter, mais c'est relativement peu à côté des différences énormes de situation sociale, de situation de classe, et puis surtout d'intériorisation de toute une série de schémas culturels qui sont les leurs et qui font qu'elles ne peuvent pas tellement se permettre de se révolter ou même de critiquer des vécus qui à nous paraissent aberrants, comme par exemple le fait qu'en Égypte, 70 à 80% des femmes sont excisées. Bon, ça c'était donc la question des positions face à l'excision. Nous l'avons pas mal travaillé, nous avons plusieurs documents là-dessus, je pense qu'une fois on pourrait y revenir. Ensuite, nous avons eu aussi une intervention très très forte de Philomène Mélé-Soussou, qui est une Togolaise, et qui racontait que pour elle, la fameuse décennie des femmes pour le développement avait signifié quelque chose. On dit souvent que c'est très tarte à la crème et que ça n'a pas beaucoup été concrètement dans la réalité des femmes. C'était plutôt des grands principes, disons que les femmes, effectivement, devaient prendre part au développement. Mais pour cette Togolaise, ça a été une réalité, c'est-à-dire que c'était une femme de la base, une assistante sociale, qui a été... impliquée dans des actions novatrices dans sa région, la région des plateaux togolais, et qui en parle avec beaucoup de charme. Et là aussi, tu étais sélectionnée pour venir se former ici à l'Institut du Développement. J'espère qu'on aura l'occasion de passer à Radio Pleine Lune sa contribution, parce qu'elle était remarquable. Au fond, elle nous fait vivre en parlant une pratique de femmes qui à la fois se battent sur le terrain économique, qui produisent des champs collectivement, qui améliorent leur production vivrière et leur production même aussi industrielle. Et puis elle nous présente toute une pratique aussi d'animation rurale à laquelle elle croit beaucoup, qu'elle était très identifiée, avec toujours des petites notes comme ça qui nous touchent, parce que elle dit par exemple, moi j'ai été beaucoup formée, j'ai été formée à tout à la fois. En 2 ans, il m'a fallu apprendre les notions de puériculture, il m'a fallu apprendre à construire des latrines, il m'a fallu apprendre des bases d'agriculture un peu plus moderne. Il fallait tout avaler. Et puis après, j'ai plus trouvé de mari. C'est pas possible de trouver un homme parce qu'on les domine, on en sait trop. Elle disait des choses comme ça. Et en même temps, très fortement, elle croit à l'action des femmes. Bon, ça c'était la deuxième intervention. Il y en a une troisième qui émanait des femmes de l'Argentine, qui ici sont en association, mais alors c'est pas que des femmes, c'est une association mixte qui s'appelle Mémoire pour les disparus en Argentine. Et nous avons parlé du leadership des grands-mères de la place de Mai dans cette action, et comment est-ce qu'elles, en tant que femmes plus âgées, elles se sont situées au fond à la pointe de la... Comment est-ce qu'on pourrait dire, des démonstrations de rue, quoi. Il faut quand même le faire. Et puis, elles ont mené ça d'une façon très forte, quoi. Enfin, on les connaît bien, enfin, on en a déjà entendu parler. Mais ici, il y a un comité de soutien à ces femmes actuellement. Et elles ont présenté leurs activités. Et puis, il y a aussi une intervention d'une femme qui a vécu au Pérou, qui a épousé un Péruvien, et qui a parlé de la place des femmes dans le mouvement Sentier Lumineux, qui est donc le mouvement de lutte armée des Andes, dans la région andine, de la culture quechua. Et puis là aussi, elle a aussi donné toute une série d'informations très nouvelles pour nous. Alors c'était une palette très variée d'activités, c'était un voyage express autour de la planète, qui montrait que ponctuellement, dans beaucoup d'endroits, les femmes se bougent. Et bon, on essayait de faire une réflexion là-dessus. Alors le deuxième groupe, pendant ce temps, s'occupait des multinationales et de la portée d'action de consumérisme, on appelle ça. C'est-à-dire, bon, est-ce que de la part des consommateurs, et évidemment beaucoup aussi des consommatrices, il y aurait moyen de continuer ou de rendre plus offensives certaines actions contre des ennemis qui nous sont communs à toutes les femmes chargées de la reproduction dans la planète et qui sont finalement le poids des multinationales sur notre mode de vie, sur notre mode de consommation, sur l'imposition des produits, sur l'imposition d'un certain type, soit de médecine, soit d'agriculture où il y a trop d'engrais, soit encore de... junk food, comme on appelle, c'est-à-dire quoi, la nourriture, la malbouffe, qui là aussi nous est imposée par des multinationales. Si on pense que les multinationales sont complètement coordonnées au niveau planétaire, on se dit que nous, on a encore du travail à faire pour coordonner nos luttes à la base contre ces ennemis-là. C'était donc le deuxième groupe. Et puis la... Le week-end de réflexion s'est terminé par une discussion plénière qui a eu lieu le samedi en fin d'après-midi, et qui portait sur des perspectives d'action. C'était l'occasion de nombreux contacts. Il y avait quand même 60 femmes qui ont fait connaissance, des têtes nouvelles qui se sont montrées, des femmes qui avaient envie de s'engager en prolongation aussi d'ici. Genève ou d'autres initiatives pour soutenir des projets de femmes dans le monde.
Okay. Alors je crois que tu voulais ce soir parler plus particulièrement de la soirée de vendredi qui en fait concernait
le mouvement suisse.
Ouais.
Oui, je pense que ça a été une rencontre très intéressante. Les femmes qui ont participé à cette soirée se revoyaient au fond après des années où, bon, elles s'observent. Bien sûr, on s'observe dans les différentes tendances du mouvement. On n'a pas si souvent que ça l'occasion de se rencontrer, de confronter des points de vue. Parce qu'évidemment, le but général qui est d'augmenter le pouvoir des femmes, tout le monde l'a, mais on peut quand même dire que les stratégies et les modes d'implication peuvent varier suivant les personnes, suivant l'établissement des priorités. Et là, c'était quand même intéressant d'avoir une palette de femmes engagées diversement, estimant que les priorités sont à tel ou tel endroit, pas toujours au même endroit, mais d'accord de se parler et d'accord de commencer à échanger un minimum, d'avoir un peu plus de communication. Moi, je pense qu'à la longue, ça payera parce que il y a des apports mutuels dont on peut profiter les unes des autres. Mmh. Et il me semble que la soirée de vendredi a un petit peu commencé ce processus. Je ne pense pas que c'est terminé. C'était un moment de rencontre. Je trouve que c'est une très bonne idée, là, aujourd'hui, de passer deux interventions de femmes qui sont finalement tendance, comme on disait dans le temps, lutte des classes, mmh. c'est-à-dire qui estiment qu'il y a quelque chose à faire au niveau d'organisation mixte en tant que femme et qui se demande comment le faire.
Mmh. Oui, on a choisi ça parce que c'est aussi le 1er mai, on a dit que ça.
Ben ouais, en l'honneur du 1er mai.
Ça irait bien.
Exactement. Alors, je pense que c'est une bonne idée maintenant de passer leurs interventions intégralement. C'était ce que vous pensiez faire, je crois.
Oui, c'est ça.
Au moins les deux premières, c'est-à-dire donc la Jacqueline Gury, secrétaire mmh. syndicale de la CRT, qui a parlé la première, et ensuite Sylvie Bonnard, qui fait partie de l'OFRA et qui est également dans une organisation mixte qui est le Parti Socialiste Ouvrier.
Mmh. Oui. Effectivement. Alors, avant de passer ces interviews, puisqu'on t'a en ligne, est-ce que tu peux déjà nous dire deux mots sur un bilan de cette soirée? Est-ce que tu en as déjà? Est-ce que vous, votre groupe, vous avez déjà fait un peu un bilan?
Alors, en tant que notre groupe, on n'a pas fait de bilan parce qu'on s'est pas encore vraiment, on n'a pas encore beaucoup réfléchi à tout ce que ça signifiait. Moi, j'ai bien aimé la conclusion d'une des participantes à la fin de la soirée qui parlait, enfin je reprends un peu son image, elle disait que le féminisme c'est au fond quand même une chaîne avec beaucoup d'anneaux et il faut que chaque anneau fasse la chaîne. Et c'est vrai que chaque anneau est peut-être de qualité différente, de couleur différente, de matière différente, mais ça va quand même faire un très beau collier, un collier qui tournerait autour du monde. Et puis, je trouvais que c'était une belle image, mais enfin bon, c'est plutôt un rêve qu'une réalité pour le moment, parce qu'il y a... On n'en était qu'au début, je trouvais. C'était bien d'affirmer chacune son opinion, c'était bien de la confronter dans une même soirée, mais ce qu'il faudrait quand même peut-être arriver à faire, c'est voir si en tant que femme, consciente que les changements sociaux sont très importants pour le mouvement des femmes, que le mouvement des femmes est toujours inscrit dans des changements sociaux, ça on en est toutes conscientes, est-ce qu'il y a des objectifs communs, concrets, qu'on pourrait avoir au niveau de la solidarité internationale en tant que femme suisse, par-delà certaines différences qu'on peut avoir sur les stratégies adoptées dans notre propre pays? Mmh. Et pour moi, cette question-là, elle est encore ouverte. C'est un début.
Bien. Alors, avant de passer ces interviews, on va quand même un petit peu mettre de la musique. Et on a ici une image d'une femme travailleuse par Barbara Dane de New York. Merci beaucoup et à la prochaine.
Au revoir.
That's how I was defined. As if that was my life, my hope and my mind. But I worked in a bake shop, did the housework at night, and there was no time to stop. Or a young bird in flight. Well, in time there were babies had to make us a home. Joe was working two jobs, and I was always alone. I needed some time and just a little control, just to keep my right mind, just to try to stay whole. Kids are in high school, and don't you know the boss calls me girl? But the woman beside me, as we sweat out the line, says tomorrow is payday, hey, and the next day is mine. It's a race for the strong, 'cause it'll grind up the meek. When your money runs short, about the end of a week, and your car needs some tires, get to the source. I think me and this system got to get a divorce. I can't make enough money that I can't find enough time. But I'm a hard worker. More where I come from, yeah, and we got anger to burn, but we're talking and moving, we're gonna study and learn, build a unity train. Today is the boss's, I know tomorrow is mine, and I know it takes loving.
sur Radio Pleine Lune, 101,4 MHz. On écoute une émission sur une soirée organisée par l'Association de solidarité avec les femmes en lutte. Alors, on a entendu une des organisatrices, Marie-Jo, qui nous présentait un peu un bilan, un compte-rendu de cette soirée. Et elle nous racontait comment une des participantes avait terminé ce débat. Alors, nous allons aussi recommencer par la fin en vous faisant écouter le mot de la fin qui donne un peu un éclairage à ce qu'a été cette soirée.
On veut s'organiser d'une façon autonome avec les femmes pour libérer les femmes et la société, mais dans nos vies, on veut entretenir des rapports humains avec les hommes. On estime que c'est des oppresseurs, mais on n'a pas peur des contradictions, et puis on vit avec des hommes, etc. Bon, ça, c'est la position médiane. Et puis, il y a l'autre anneau, c'est la... Et chaque position, c'est le lesbianisme, c'est-à-dire on veut s'organiser entre femmes à tous les niveaux de la vie, c'est-à-dire au niveau de l'organisation politique, mais aussi au niveau de nos vies. On ne veut pas d'hommes dans notre ménage, dans notre lit et dans nos cuisines. Voilà. Alors, ça, c'est les trois anneaux. Et chaque position interpelle la position qui est à côté. C'est-à-dire que moi, je me sens interpellée par la position lesbienne, tandis que celle qui est dans les organisations politiques, j'imagine, hein, je ne sais rien, mais disons qu'on est beaucoup plus interpellée par la position qu'on a la plus proche, celle qui vient tout de suite après. C'est-à-dire que quand on est dans une organisation politique, on se dit, est-ce que c'est cette première contradiction qui nous travaille. Hein, et chaque c'est une chaîne. Mais moi, je pense pas que c'est une chaîne d'évolution. C'est-à-dire que celles qui sont dans des organisations politiques, elles évolueront et puis elles finiront lesbiennes parce que c'est le lesbianisme qui a la stratégie. Et je pense pas que celles qui sont au milieu, elles évolueront dans un sens ou dans un autre. Je pense, je sais pas quoi penser. Hein.
Voilà, c'était le mot de la fin et je ne sais pas quoi penser. C'est un petit peu peut-être l'impression qu'on en a après ces journées, mais je pense que ça va mûrir et que bientôt on en pensera beaucoup. Alors ici à Radio Pleine Lune, on ne savait pas très bien quoi faire de tout ce matériel immense et on a décidé de présenter des interventions uniquement dans les 5 interventions du vendredi soir qui présentaient la palette du mouvement des femmes. On a choisi d'en présenter 2. Pourquoi on a pris ces 2-là? Premièrement parce que c'est le 1er mai et les 2 parlent d'une situation de femmes qui sont à la fois dans des groupes ou des syndicats mixtes et à la fois dans des organisations de femmes. Et puis peut-être parce que ce genre de position, on en parle moins souvent à Radio Pleine Lune, c'est pour ça qu'on les a choisis. Alors on commence avec Jacqueline, une syndicaliste, qui nous explique pourquoi il n'y a peu de femmes dans les syndicats en Suisse.
Jacqueline Gurie, je suis secrétaire syndicale de la Confédération romande du travail pour la CRT du Jura. Donc je viens ce soir là de Delémont. Et à mi-temps en ce moment, et l'autre mi-temps, je suis infirmière enseignante aussi dans la même région. Voilà. Alors ce soir, je vais essayer de donner un peu le point de vue d'une syndicaliste par rapport au thème de la soirée. Je ne suis pas une chercheuse, je n'ai pas apporté de statistiques, je n'ai pas apporté d'études sur la syndicalisation des femmes et tout. J'aimerais simplement vous parler un peu de ce que je connais mieux, c'est-à-dire la réalité des travailleuses en Suisse, en particulier des travailleuses du secteur tertiaire et de celles que je rencontre dans le syndicat pour lequel je travaille. Syndicat qui est minoritaire, mais qui a une certaine originalité et qui pose pas mal de questions. Alors, quand Claire Lise m'a posé une question, pourquoi les femmes suisses ne sont pas syndiquées et comment voit-on leur participation au syndicat? Alors je vais essayer, pour répondre à ces deux questions, je vais essayer de vous dire d'abord, vous donner quelques explications, enfin qui sont mes explications sur ce pourquoi. Ensuite, d'esquisser des explications au constat et puis ensuite de voir, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je pourrais toujours, dans la discussion ou dans les questions qui pourront suivre, donner plus d'exemples concrets par rapport à ce qui se passe et aux réalités auxquelles je suis confrontée depuis une douzaine d'années que je milite dans un syndicat. Alors, la première question, pourquoi les femmes suisses ne sont pas syndiquées? Je crois d'abord que cette affirmation, elle est fausse, parce que elle est en partie fausse, parce qu'il y a des femmes suisses syndiquées, d'une part. D'autre part, il faut savoir que, en fait, le taux de syndicalisation en Suisse, il est relativement élevé. Il est, par exemple, plus élevé que celui de la France, pour prendre un pays voisin. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des associations de tout genre, qu'on peut plus ou moins associer à des syndicats. Donc, il y a un assez fort taux de syndicalisation en Suisse. La question, c'est que les femmes, elles sont représentées d'une manière minoritaire dans les syndicats. Bon. D'accord. Alors, pourquoi on n'entend pas les femmes qui sont dans les syndicats? Je crois d'abord qu'il faut dire qu'il y a peu de luttes qui sont spécifiques aux femmes dans les syndicats. Je mettrai une exception de l'année passée, qui a été toute la question liée au travail de nuit des femmes. Mais aussi, il faut relever qu'il y a peu de luttes tout court dans les syndicats. On est dans un syndicalisme en Suisse d'abord de concertation et non pas un syndicalisme de combat et de lutte, à part quelques exceptions. Il faut dire aussi qu'il y a peu de femmes qui ont des responsabilités syndicales. Par exemple, dans le syndicat dans lequel je suis, il y a une dizaine d'années, au comité roman du syndicat, donc à l'organe qui regroupe les gens de l'ensemble des cantons, j'ai été pendant plusieurs années la seule femme. Et puis, une des raisons aussi importantes, je crois qu'il faut parler du syndiqué type, et je vais essayer de vous le décrire. Je fais référence à un petit bouquin, là. On peut sans forcer la note dire qu'il vaut mieux être né suisse mâle il y a 30 à 50 ans, avoir bénéficié d'une formation complète, travailler à plein temps comme cadre dans une industrie soumise à une convention collective dans le canton de Genève. Voilà le syndiqué type suisse. Tandis qu'être née étrangère et femme il y a moins de 30 ans ou plus de 50 ans, demeurer sans formation professionnelle et être vendeuse à temps partiel dans un grand magasin jurassien dont le syndicat est absent, voilà le type de femme que le syndicat ne regroupe pas. Cette citation, je ne l'ai pas tirée d'une étude sur le syndicalisme et les femmes, mais tout simplement d'une étude qui a été faite par la CRT sur les bas salaires. Comme par hasard, ça se recoupe. Alors, du point de vue de la syndicalisation des femmes, il serait intéressant, une fois, d'étudier un petit peu l'histoire, d'ailleurs ça a déjà été fait, qui nous montre qu'il y a eu des mouvements féministes intéressants dans les syndicats et en dehors des syndicats avant la guerre. Alors, pour expliquer cette situation, il me semble que, enfin, j'ai essayé de faire trois constats. D'une part, la représentativité. Le portrait robot que je vous ai donné tout à l'heure le montre bien. Les femmes ne sont pas représentées équitablement dans les syndicats, aussi bien en nombre, puisque leur taux de syndicalisation reste faible, aussi bien en responsable, puisqu'il y a très peu de femmes qui ont des responsabilités syndicales, voire qui sont secrétaires syndicales, etc. En termes d'organisation, puisqu'il y a peu d'organisations qui prennent en compte la manière d'agir, de fonctionner des femmes dans les syndicats, donc qui ne permettent pas une participation réelle des femmes. Et je dirais aussi en termes de revendications, puisque les revendications des femmes sont peu prises en compte, enfin elles sont prises en compte, mais souvent on ne met pas les moyens nécessaires pour les faire aboutir. Par exemple, dans les syndicats, lorsqu'on soulève toute la question des droits parentaux, dans les assemblées syndicales à majorité d'hommes, ça pose toujours un certain nombre de questions incalculables. Comment les pères veulent-ils aussi avoir le droit à un congé parental, etc. Enfin, vous avez tous suivi le débat sur l'initiative maternité. Il a aussi soulevé un certain nombre de questions dans les syndicats. Et puis, je dirais aussi, les femmes sont peu présentes en termes de, j'ai dit tout à l'heure, en termes de lutte et en termes d'action spécifique. Ça me paraît important, ce problème de la représentativité dans les syndicats. Deuxièmement, il me semble, deuxième constat, c'est que l'emploi des femmes en Suisse n'est pas un droit reconnu, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Ce droit à l'emploi, il me paraît fondamental. On pourra y revenir dans la discussion. Je donnerai quelques exemples pour montrer en quoi le droit à l'emploi n'est pas reconnu. Je crois que l'exemple le plus frappant, c'est le chômage. Puisqu'on a partout, il y a du chômage, un plus haut taux de chômage chez les femmes. On a assisté depuis une douzaine d'années maintenant à une diminution de l'emploi des femmes qu'on a renvoyé à leur casserole. J'en parle en toute connaissance de cause venant des régions horlogères. On a vu ce qui s'est passé. Par exemple, le travail à domicile a diminué, enfin, il n'existe quasiment plus dans le Jura. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les travailleuses horlogères qui travaillent à domicile au début de cette crise n'ont même pas touché du chômage puisqu'elles ne se considéraient pas comme des travailleuses, en fait. Elles n'ont pas eu droit aux indemnités de chômage ou elles n'ont pas osé aller pointer pour le chômage. Bon, à la moindre occasion, on renvoie les femmes à leur ménage. Il y a une série de débats, notamment dans les régions touchées où il y a plus de chômage, autour des doubles emplois, des doubles salaires. C'est pas normal qu'un enseignant et une enseignante travaillent les deux, enfin, etc., etc. Un autre signe que le droit à l'emploi n'est pas reconnu, on ne se donne pas les moyens de l'appliquer, c'est que la formation professionnelle des femmes, elle reste peu poussée. Et je crois que la formation professionnelle est quand même une des bases importantes du travail des femmes. Puis comme vous le savez, presque rien n'est fait pour favoriser le travail des femmes en matière de garderie, de droits parentaux, etc. Bon, il arrive que là où c'est nécessaire d'avoir des femmes, on se débrouille quand même pour en avoir ou pour favoriser leur travail. Je reviens sur tout l'exemple du travail de nuit parce qu'il semble que c'est pas, puisqu'il semble que ce travail qu'on veut offrir aux femmes, c'est de la microtechnique, c'est un travail très spécifique. Et alors là, on se débrouille déjà pour fournir le travail aux femmes, mais c'est un cas bien spécifique. Troisième constat, les inégalités. Vous le savez, la division des travailleurs et des travailleuses et les inégalités qu'elles supposent sont la base même du dynamisme du capitalisme dans lequel on baigne. Alors je dirais que les femmes, comme d'autres catégories, sont les premières victimes des inégalités. Alors, est-ce que c'est nécessaire de rappeler les inégalités de salaire? Je crois que c'est assez criant. Globalement, les femmes gagnent un tiers de moins que les hommes, ça vous le savez. Je peux revenir sur des exemples plus concrets après, si vous le souhaitez. Ce qui est important de parler aussi en termes d'inégalités, c'est les inégalités qui sont cachées, qui sont beaucoup plus perfides par rapport à des temps partiels, par rapport à toutes les nouvelles formes de travail qu'on développe à l'heure actuelle, etc. Bon, que faire ? Puisque j'ai que 5 minutes, je vais essayer de parler rapidement. Je crois que dans les trois constats que je viens de dresser, il y a des éléments de revendication qui devraient être pris en compte par le syndicalisme. Aussi bien au niveau de la représentativité, il s'agit de changer les structures du syndicat et à ce que les femmes y soient plus présentes. Sur la question du droit à l'emploi, c'est un débat que le syndicat devrait prendre en compte, mais mon expérience me dit qu'ils ne sont pas prêts à le prendre en compte. Et la lutte contre les inégalités, ça c'est une lutte importante qui est aussi relativement peu prise en compte. Je pense par exemple au salaire. Et on sait que Il ne suffit pas de dire... il ne suffit pas d'attendre qu'il y ait un procès sur les inégalités de salaire. On sait très bien que la principale inégalité, elle réside dans les ghettos d'emploi féminin mal payés. Donc ça, même un bel article constitutionnel tout neuf ne va pas y changer grand-chose. C'est des luttes globales qu'il faut mener sur des secteurs qui sont défavorisés par eux-mêmes. Bon, alors, pour que tout ça soit pris en compte par les syndicats, moi, j'ai la conviction qu'il faut changer le syndicat et il faut le féminiser. Vaste programme. Il est nécessaire de rénover le syndicat, d'avoir dans un syndicat un projet social. Ce qu'on essaie de faire à la CRT, on essaie de promouvoir la rénovation du syndicalisme, essayer de le rendre plus combatif, de le rendre autogestionnaire, qu'il ait un projet. Bon, c'est pas simple. Il me semble que tout ça passe par un syndicat, comme on le qualifie, d'interprofessionnel, c'est-à-dire qu'un syndicat où se retrouvent d'abord toutes les professions, toutes les couches de salariés, toutes les différentes sortes de salariés, qui essaient de s'ouvrir sur l'ensemble des réalités des travailleurs et des travailleuses, donc qui ne se renferment pas sur son corporatisme ou sur son professionnalisme. Et ça, en Suisse, c'est une bagarre qui sera très très longue à mener, puisqu'on a essentiellement des syndicats qui sont basés sur des secteurs industriels, qui ne sont pas interprofessionnels. Ça veut dire aussi que le syndicat se démocratise, qu'il soit plus représentatif, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il part des réels besoins et des envies des gens. Et qu'ils s'organisent en fonction de ça. Est-ce qu'on arrive à faire changer quelque chose? Mon petit bout d'expérience me dit qu'on y arrive. En tout cas, en ce qui concerne le syndicat dans lequel je suis, mais je sais aussi qu'il y a d'autres organisations, il y a des choses qui se passent intéressantes. Je disais tout à l'heure que dans le comité roman de mon organisation, j'étais seule il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a à peu près 5 femmes qui participent. Bon, dans le Jura où je travaille, le syndicalisme qu'on a développé, il regroupe presque les 3/4 de femmes et 1/4 d'hommes. Bon, à la CRT, on a essayé de pousser un certain nombre de revendications qui touchent plus particulièrement les femmes. Je pense par rapport aux inégalités, aux salaires, aux bas salaires, à la VS. On est en train de faire un dossier sur les droits parentaux pour ne pas laisser complètement s'évanouir tout le débat qu'il y a eu sur l'initiative maternité. Pour que toute la question des droits parentaux... on essaie de faire un dossier à présenter au syndicat pour que dans les cahiers de revendications figure un certain nombre de droits parentaux. Bon, on a fait un dossier sur l'ouïe à la vie, etc. Donc il y a un certain nombre de thèmes comme ça qui commencent à avancer gentiment, qui n'auraient pas été abordés il y a simplement 5-6 ans. Mais pour continuer à faire avancer ces thèmes, à prendre en compte les revendications des femmes, je crois qu'il faut que les femmes elles entrent dans les syndicats. Je crois qu'il faut que dans les syndicats, elles s'imposent. Il est vrai aussi que pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir prendre leur place, ça nécessite qu'elles se forment. Et là aussi, les syndicats devraient avoir des programmes de formation beaucoup plus consistants par rapport aux femmes. Il est peut-être nécessaire de se retrouver entre féministes, dans un premier temps, pour mettre au point des stratégies par rapport à l'organisation du syndicat. Moi, je pense aussi qu'il faut que les femmes qui ont envie de bouger dans ces secteurs-là, elles choisissent les organisations où les changements sont possibles, parce qu'il y a aussi des organisations où c'est du béton. Et je pense qu'il y en a d'autres où on peut y apporter des changements, où il y a des solidarités qui sont effectives. Et je crois que les solidarités effectives, on le verra, on pourra tester ça au niveau des moyens que l'organisation met à disposition. Parce que toutes les organisations diront, c'est sûr que nous, on prend en compte les revendications des femmes, il faut qu'elles viennent, etc.
Moi, je dirais, quels moyens vous mettez à disposition, combien vous avez de permanentes femmes, combien vous mettez de sessions de formation à disposition pour les femmes, quelle place elles ont, et puis après, on discutera. Et je crois que, d'une manière comme ça, très terre à terre, c'est là qu'on va pouvoir tester si les organisations veulent vraiment changer quelque chose ou si c'est que des souhaits idéologiques, quoi. Voilà, alors pour conclure, je ne sais pas si j'ai dépassé les 5 ou 10 minutes, je dirais que je vous encourage, quoi, si ça vous intéresse de continuer à vous poser des questions ou éventuellement agir dans le cadre du syndicalisme, bon, à vous y engager et à essayer d'y faire un travail, à essayer de féminiser le syndicat. Et à essayer, mais c'est, je vous dis, tout un programme, à essayer de bouger dans ces secteurs-là et à y découvrir les solidarités qu'on peut y rencontrer, qui sont réelles, et aussi à trouver la satisfaction de se faire reconnaître, quoi, de faire reconnaître ses droits. C'est un peu l'expérience que je vis là depuis une dizaine d'années.
Et dans les magazines et dans les vitrines, les femmes ont tant de frivolité, demande à Gisèle.